Louis-Frédéric Rouquette, Le Grand Silence Blanc, chapitre 6. De l'utilité du parapluie chez les Tlingits. La porte tourne sans bruit. La face camuse de Kotak paraît. Il entre avec précaution, puis il m'aperçoit. Sa physionomie s'éclaire d'un large rire qui montre ses dents éclatantes. Son nez court et plat semble encore s'élargir. Ses yeux se plissent comme une patte d'oiseau. Kotak fait ses plus belles révérences. Il se frotte tour à tour l'oreille droite et la narine gauche, ce qui est sa manière de montrer sa civilité. Les politesses terminées, il s'assied sans façon près de moi sur le lit de camp où je suis couchée tout habillée. Kotak gratte de l'index son crâne, puis lisse ses cheveux qu'il a roides, drus, luisants et noirs. Évidemment, Kotak a des choses importantes à me dire. Je lui demande des nouvelles de sa femme, de son père, de son grand-père, de ses trois petits-enfants. Tout le monde va pour le mieux. Les chiens, alors? Non, l'équipage est au repos. Dol et Kaaka n'a plus ses coliques qui le faisaient se rouler sur la neige en hurlant. Alors, seulement, je vois la tenue de mon ami Kotak. Il a sa double jaquette de peau de phoque. Celle de dessus porte un capuchon. Ses culottes en phoque également sont attachées par des courroies de cuir. Il a chaussé ses hautes bottes dont la semelle est faite de peau de mousse. Ses gants en cuir de caribou pendent à sa ceinture. Tu pars en expédition? Oui. Allons, bonne chasse, Kotak. Emporte ce flacon de whisky. Kotak empoche le whisky et ne bouge pas d'un pouce. Il se décide tout d'un coup. Tu viens avec moi. Moi? Toi. À la chasse? À la chasse. On m'a signalé un passage important de phoques. Je prends la mer et tu viens avec moi. Je veux protester. Kotak, maintenant, parle avec une volubilité extraordinaire. Tu ne peux pas ne pas venir. D'abord, cela t'intéressera. C'est une joie de chasser le phoque. Et puis, tu ne peux rester seul éternellement. Tounia, qui vit dans la terre, est entrée dans ta tête pendant ton sommeil. Mais le corbeau qui nous protège chassera Tounia. Il est tout puissant. C'est notre père. Il a ravi au chariot notre grand-père, le poisson pour le donner au Tlingit. Il offrira à Tounia tes présents et Tounia fuira dans sa demeure souterraine. Si tous les dieux esquimaux s'en mêlent, je n'ai qu'à obéir. Je vais pour prendre ma Winchester. Kotak m'arrête. Non, non, pas cette chose. Pour chasser, il faut un fusil. Inutile. Et Kotak m'explique que les détonations effarouchent les phoques, peureux à tel point qu'ils restent 5 ou 6 années sans reparaître dans les régions où ils les ont entendus. Nous sortons. Il me montre alors ses armes. Javeline, harpon, lance. Ce sont, assure-t-il, les armes qui ont été données aux Esquimaux par Klouch, le grand maître des sommets, à l'époque où l'homme parlait comme le chien. Sur la côte, des hommes sont assemblés qui préparent des amorces, fourbissent des coutelas ou raclent des pots avec un grattoir d'ivoire. Des femmes aussi, vêtues absolument comme les hommes. Le capuchon est plus large. C'est là que gîte le dernier né. ficelée soigneusement dans une gaine de cuir, seule apparaît la face cuivrée où les yeux bleus tendres s'étonnent. Kotak tire son kayak sur la grève, puis le kayak que Towi a bien voulu mettre à ma disposition, cependant qu'il allait chasser la Baldfès, l'ours blanc redoutable. Certes, la civilisation des Esquimaux m'a toujours surpris, mais où vraiment elle se montre raffinée, c'est dans l'établissement de ces fragiles esquifs. Ce sont des peaux de phoque tendues sur un cadre de bouleau de 5 ou 6 mètres de long sur 1,60 m de large. Une lunette est ménagée au milieu. C'est là que le pagayeur se place. Il ramène à lui une des peaux, la graffe. Dès lors, le canot est insubmersible. L'homme et le bateau ne font qu'un. Il peut chavirer, un coup de pagaie le redresse. C'est un chef-d'œuvre de précision et d'ingéniosité. Kotak préside à mon installation, boucle lui-même les courroies, me donne l'unique pagaie, puis il s'installe à son tour. À l'avant sont ses armes, à l'arrière une vessie reliée au harpon par une longue corde, vessie qui servira à indiquer la trace du phoque harponné. Les femmes nous souhaitent bonne chance et sourient d'un sourire agrandi par les tatous, qui sont des boutons minuscules en os ou en ivoire qu'elles placent latéralement au-dessous de la commissure des lèvres. Leurs mentons tatoués portent de 5 à 12 raies parallèles selon le clan auquel elles appartiennent. Mais Kotak profite de la galerie pour s'offrir un succès personnel. Il fait virer son esquif, il bascule, il disparaît, reste quillant l'air un long moment, puis réapparaît. On dirait un dieu marin jouant sur les eaux. Quand il estime avoir suffisamment excité l'admiration, il émet un petit sifflement et pique droit vers la haute mer. Je m'efforce de le suivre de mon mieux. Le kayak vole littéralement sur la crête des flots et bientôt, en me retournant, je vois la pointe de barreau qui se perd, confuse, dans l'enchevêtrement fantastique des carcasses de baleines d'un blanc de craie sur la neige bleuie. Kotak vient de confectionner un plat de sa façon où le sang et la graisse du phoque jouent un rôle important. La chasse a été fructueuse. 4 mâles harponnés que nous avons traînés là avant de revenir à Point Barrow. Nous sommes dans l'anfractuosité d'un îlot où des myriades d'oiseaux nichent, des oiseaux aux plumages étincelants. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est l'harmonie, l'ordre qui règne. Chaque espèce a son domaine déterminé. Les mouettes aux plumes couleur de pêche sont sur la haute falaise, à l'étage au-dessous, sur les rochers en terrasse qui surplombent la mer, les goélands orange se dandinent sur leurs pattes roses. Dans les trous, il y a des millions d'oiseaux inconnus, portant sur leurs ailes toutes les émeraudes de l'océan et tout l'azur du ciel. La mer est calme, d'un vert puissant. L'horizon est fermé, là-bas, dans un arrière-plan bleuâtre, où se silhouette la masse dentelée d'un iceberg qu'entraînent irrésistiblement les courants sous-marins. Et Kotak, très fier de montrer son savoir, en profite pour me faire un cours sur les phoques. Il s'exprime certes avec moins d'élégance que M. de Buffon, mais M. de Buffon aurait beaucoup appris à l'entendre. Il me parle du phoque couleur de buffle, du phoque dont la lèvre supérieure est cannelée, dont les pieds de devant n'ont que quatre doigts. Le phoque à long cou, qui vient on ne sait d'où, et qui ne possède point d'ongles. De ces vieux à la peau tigrée, de ces jeunes, noirs sur le dos, et sous le ventre, blancs. Du phoque, grand comme un bœuf, qu'on voit parfois, mais qu'on ne harponne jamais. Certains chasseurs l'ont poursuivi pendant 150 000. Il disparaît toujours au moment de l'atteindre, protégé par les esprits des eaux. Il en est qui ont la tête d'une tortue. D'autres fantaisistes sont d'une couleur noirâtre et portent un dessin jaune sur les côtés. Les mouchetés et les tachetés sont par 1000 fois 1000. Une espèce a, sur l'échine, des ronds bien tracés. Celui-ci est barbu, celui-là moustachu. Il y a encore les otaries, aux yeux chassieux, au pelage doux et au pelage dur et grossier, les unes noires, les autres gris cendré. L'une, coquette, s'orne d'une bande rousse sous le ventre. Celle-ci l'a sur la tête, comme une écharpe. Quelques-unes sont jaunes avec des oreilles longues. D'autres, pour se différencier, ont les oreilles rabattues. On en rencontre qui n'ont pas d'ongles. D'autres en ont 3, 4 ou 5. Et Kottak a des précisions qu'envirait monsieur le directeur du muséum. Il m'explique pourquoi les phoques ayant les pattes postérieures dirigées en arrière ne peuvent pas se tenir debout et sont obligés de rebondir sur le sol comme une balle. Il sait que le phoque ordinaire a 35 dents, 18 en haut, 17 en bas, que la plupart ont 5 griffes développées, réunies par une membrane interdigitale. Il en a vu de 3 mètres de long et pesant 800 livres. Mais la plupart ont 1,50 m et pèsent moitié moins. Je songe, malgré moi, à toutes les hécatombes dont les malheureux phoques font les frais. Pauvres phoques, ignorant la malice des hommes, quelle affreuse chose que votre mort. Qui n'a pas entendu vos cris et vos appels déchirants ne connaît pas jusqu'où peut aller la douleur. On vous abat, on vous assomme, on vous égorge, on vous dépèce, le sang coule, il ruisselle, et bientôt la neige disparaît pour laisser la place à une boue liquide dont l'odeur fade écœure. Mais Kottak, dont l'esprit ne s'embarrasse pas de sentimentalité, me dit pratique, « Nous avons eu ici des proies faciles. » Mais sais-tu ce que c'est que guetter pendant des heures sur la banquise, le trou où le phoque viendra sûrement respirer? On est accroupi sur la glace, l'œil fixe, le poing crispé sur le harpon. Le froid pénètre les os. La pensée vacille et s'obscurcit. Une seule idée subsiste. Si la chasse est infructueuse, la tribu ne mangera pas. Le phoque, pour nous, c'est la vie, notre vie, et celle de nos chiens. C'est pourquoi les tribus qui sont loin des côtes font de grandes expéditions pour se procurer des réserves. Nos frères Tlingits capturent des animaux vivants. C'est une curieuse chasse. Ils se placent en arc de cercle entre les phoques et la mer et les effraient avec de grands cris. Le cercle se referme peu à peu. Ils poussent les phoques dans la direction voulue. Pour arriver à leur but, les chasseurs se servent d'une arme étrange importée par tes frères, des parapluies. Des parapluies? Oui, des parapluies, c'est vraiment très commode. Des parapluies échangés aux pêcheurs et aux trappeurs, de grands parapluies rouges ou bleus qu'ils ouvrent et referment avec fracas. Les animaux affolés font des bonds, tombent essoufflés. Le jeu des parapluies recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les animaux soient rendus à l'endroit propice pour les abattre. Parfois, la chasse dure 20 jours. Je reste confondu devant l'utilisation inattendue des riflards de nos pères par les Esquimaux d'Alaska. Et comme toujours, dans les plus tristes choses, il y a une note comique. C'est la note comique que je retiens et qui me fait sourire. Je souris encore quand Kotak me dit « Ne nous attardons pas, la nuit va manger le jour. Si tu veux, nous retournons, petit frère, nous et notre chasse. » Et nous sommes rentrés à Point Barrow, le dernier port du monde avant le pôle, ou le premier. Cela dépend à quel point l'on se place et d'où l'on vient. Chapitre 7. Sur le trail. Brusquement, la longue trace blanche, le trail, sur laquelle glisse le traîneau, a disparu. Et, pour comble de malchance, une bourrasque de neige s'est abattue. Vaillant, mes chiens font tête. Mon team est attelé à la façon indienne, le leader d'abord, puis les autres déployés en éventail. Les bêtes tirent sur des harnais, enfonçant leurs ongles durs dans la neige gelée, les jarrets tendus, le museau cherchant la piste. Si mes souvenirs sont exacts, après cette colline, je dois retrouver le trail de la poste. J'encourage mes bêtes de la voix. Mush, mush on, boys. Mes 7 labradors redoublent d'efforts. Mon sleigh passe, rapide. Un coup de collier. Enfin, voici le sommet de la colline. Là-haut, la tempête fait rage. Les chiens, aveuglés, s'affolent. Et nous dévalons la pente comme poussés par l'ouragan. Et le team s'enfonce dans une gorge étranglée. L'abîme est là, à 700 pieds. L'éventail se replie. D'instinct, les chiens ont pris le virage. J'ai le temps d'apercevoir le gouffre où le vent se précipite en mugissant. De piste, point. Il n'y a rien que de la neige, pendant des milles et des milles. La nuit tombe. Le thermomètre marque 40 sous 0. Nous allons. Depuis 2 jours, nous avons perdu le trail et nous errons et campons à l'aventure. 10 fois j'ai cru retrouver mon chemin. 10 fois je me suis rendu compte que c'était ma propre trace que je suivais. Nous avons tourné en rond. Les chiens sont harassés. Ils répondent mal à mon appel. Ma boussole est détraquée. J'ai perdu toute direction. Parfois, les bêtes, lasses, s'arrêtent. Je dois, malgré ma répugnance, employer le fouet en cuir de renne qui se lance comme un lasso. Ma provision de farine de maïs est épuisée. Il me reste une poignée de thé et du sel dans un cornet de bois. Heureusement, la tempête s'est apaisée. Dans le ciel, courent de gros nuages blancs et la plaine s'étend à l'infini, ourlée de roses mauves à l'horizon. Des sapins rabougris étirent leurs branches. Une lourde fatigue accable mes paupières. Je secoue ma torpeur. Si je m'arrête, je dormirai. Et si le sommeil me gagne, c'est la mort. Come on, boys. Eh oh, eh oh. Les bêtes excitées de la voix et du fouet donnent un suprême effort. Tout à coup, Tempest, le leader, lance un aboiement. Pourquoi cette joie? Mes yeux cherchent Je ne vois rien. Lui a vu. Ses camarades ont compris. Le traîneau glisse sur ses patins de cuivre. Je laisse faire les guides molles. Appuyant sur la droite, les chiens tirent. Leurs mâchoires claquent. L'aboiement du leader fait place à un grognement continu qui a l'air d'un gros rire. Et soudain, je vois aussi, là-bas, une mince traînée grise. C'est le trail. Nous sommes sauvés. Nous courons depuis 3 milles sur le trail de la poste. Les chiens paraissent avoir oublié la fatigue. Mais la nuit va venir, et l'excitation tombée, que deviendrons-nous? Mais le dieu des coureurs de bois nous protège. Les chiens jappent tous à la fois et s'arrêtent devant une hutte de sapins. Sans frapper, je pousse la porte en lançant mon plus aimable « Hello ». Mais pas un souhait de bienvenue, ainsi qu'il est de coutume, ne m'accueille. J'entre. La demeure est vide. J'en use librement selon la loi établie par les rudes hommes du Nord. Je bats le briquet, je fouille les coffres, je trouve des vivres pour mes chiens qui les reçoivent avec une évidente satisfaction. Quant à moi, je m'endors comme une brute, la tête enfouie dans les poils de renard gris. Lorsque je m'éveille, il fait grand jour. Un soleil pâle fait miroiter la neige. Je me mets sur mon séant. De mes poings, je frotte mes yeux. Je bâille longuement en étirant mes bras. Mais mon geste ne s'achève pas. Je viens d'apercevoir, cloué au-dessus de la porte, une gravure représentant l'Angélus de Millet. Certes, le chromo est affreux, mais je m'attendais si peu à retrouver là cette image, qui me rappelle la patrie lointaine, que je reste un moment, comme étourdi. Je regarde avec tendresse ce paysan et cette paysanne de France, le chef courbé vers la terre, donneuse de moissons. Et j'oublie que je suis à des milliers de lieues sur une terre âpre qui défend avec obstination le misérable métal qui se cache en ses flancs. Certes, c'est la terre qui paye, les 1000 parcelles d'or jaune étincellent au fond de la panne, mais combien moins belle, combien moins lumineuse que la meule qui est là, dorée par le soleil couchant. 2 jours après, j'étais à Eagle, dans l'Alaska Yankee, chez mon ami Jim McCarter, un cher garçon qui m'amena chasser le moose, si bien que j'oubliais totalement de lui demander s'il connaissait le nom de l'individu qui avait apporté l'Angélus de Millet aux dernières marches du monde.